franceinter.fr.
Six volontaires, trois hommes, trois femmes enfermés pendant 365 jours dans un dôme gonflable de 11 mètres de diamètre sur le flanc du volcan Mauna Loa à Hawaï. Voilà à quoi ressemble dans les grandes lignes en tout cas l'expérience de simulation de vie martienne ICES de la NASA qui vient de prendre fin. Et Cyprien Verseux, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrobiologiste, vous êtes justement avec nous depuis Hawaï. Vous êtes sorti dimanche de cette capsule hors du temps. C'est la quatrième mission d'isolation qu'organise la NASA. C'était la plus longue. Comment est-ce que vous vous sentez trois jours maintenant après votre sortie?
Bah écoutez, je me sens très très bien. J'ai retrouvé l'air libre, j'ai retrouvé de la nourriture fraîche. Je peux à nouveau parler à mes proches. C'est très agréable.
On n'est pas un petit peu déboussolé quand même après une année dans un ballon?
On est un peu désorienté. Ouais. Il y a beaucoup de sensations d'un coup qu'on avait oubliées. Rien que sentir le vent sur ma peau, c'est très fort. C'est inhabituel maintenant pour moi.
Alors Cyprien, vous êtes en quelque sorte un cobaye de l'exploration spatiale. Qu'est-ce que les chercheurs de la NASA ont voulu tester en particulier sur vous durant cette année entière?
L'objectif premier, c'était de voir comment nos performances et notre santé mentale, évoluaient avec le temps quand on était isolés et confinés comme ça dans des conditions proches de celles d'un voyage sur Mars.
Et comment est-ce qu'on teste la santé mentale d'un équipage comme celui-ci?
Eh ben, on le met dans ces conditions-là et on l'observe.
Simplement.
Alors on nous observait avec des capteurs qui mesuraient nos interactions, à quelle distance on était les uns les autres, sur quel ton on se parlait, etc. Des capteurs qui mesuraient notre rythme cardiaque, notre sommeil, notre activité physique, etc. On nous prélevait des échantillons biologiques, des échantillons de cheveux, d'urine, de salive. On avait des questionnaires à remplir tous les jours. On avait différentes tâches à faire ensemble. Il y avait des caméras aussi qui nous observaient. On regardait comment on se nourrissait, bref. Tout ce qu'on faisait depuis le moment où on se levait au moment où on se couchait, intéressait au moins une équipe de recherche.
L'aspect psychologique, Cyprien Verseux, c'est vraiment un des aspects justement prépondérants pour une mission martienne comme celle-là?
C'est l'un des aspects les plus importants, puisque même si on développe les technologies pour envoyer un équipage sur Mars, il faut s'assurer que l'équipage, une fois arrivé, soit capable de mener le travail à bien.
Est-ce qu'à un moment, vous avez, j'ai envie de dire, réussi à oublier que vous étiez sur Terre?
C'était assez facile de se sentir loin de la Terre, dans le sens où on était complètement isolé. On voyait quasiment aucune trace de civilisation, seulement de la roche volcanique à perte de vue. On n'avait aucune communication directe avec l'extérieur. Donc on se sentait loin de la civilisation.
Ouais, alors expliquez-nous quand même comment ça se passe quand on est assis comme ça dans un dôme pendant un an. On prend ça comme un jeu ou directement, instantanément, on est vraiment dans le sérieux de la mission? Et puis est-ce que justement humainement, psychologiquement, ça s'est toujours bien passé entre vous six?
On prend pas ça comme un jeu puisqu'on est tous des professionnels du domaine. C'est-à-dire qu'on était cobayes, oui, mais on était aussi chercheurs nous-mêmes. On avait nos propres projets de recherche. On n'avait pas besoin de faire semblant. Et vous m'avez demandé aussi pour ce qui est des relations.
Oui, entre vous six. Alors, comment ça s'est passé?
Alors, globalement, plutôt bien. Évidemment, il y a eu quelques tensions. Par contre, je pense que c'est inévitable quand on est comme ça, 6 personnes ensemble, complètement isolées, sans la possibilité de parler à quelqu'un à l'extérieur, dans un endroit confiné, sans isolation sonore. Il y aura parfois des frictions, surtout si les 6 personnes ont des personnalités assez marquées. Maintenant, on avait tous un objectif commun. Et ça nous a vraiment aidé à maintenir des relations, moi, professionnelles, selon de la mission. Même quand il y avait des tensions, on était capable de les mettre de côté et de travailler ensemble.
Ouais. Donc vous avez été entraîné justement à gérer ces tensions psychologiques?
Oui, alors pendant le processus de sélection, on a été isolés ensemble dans les montagnes rocheuses pour un stage de survie. Et en même temps, on a été formés à la résolution de conflits, des stratégies pour travailler ensemble, même dans les moments difficiles, etc.
Et surtout que la NASA vous a pas ménagé, puisqu'elle vous avait prévu quelques crises, des moments un peu de tension. Quelles sont les catastrophes que vous avez dû gérer?
Alors, les catastrophes qu'on a dû gérer, c'était surtout des catastrophes qui n'étaient pas prévues, en fait. Par exemple, notre pompe à eau a cassé. Du coup, on n'avait plus d'eau courante pendant plusieurs semaines. On a pu aller chercher l'eau dans les réservoirs qui étaient près du dôme, avec des scaphandres. Mais l'eau n'était pas potable. On a dû bricoler un système pour purifier l'eau. Alors on a eu pas mal de problèmes comme ça qui n'étaient pas prévus et auxquels on a dû faire face. Il n'y a pas eu beaucoup de problèmes qui étaient simulés. En fait, il y en a un seul qui a simulé une éruption solaire, un pic de radiation, et on a dû évacuer le dôme pour aller se réfugier. À part ça, il n'y avait aucun problème simulé, simplement parce qu'on en avait suffisamment qui arrivaient par eux-mêmes.
Vous l'avez dit, vous avez aussi vos missions scientifiques personnelles, chacun d'entre vous. Quelle était la vôtre en particulier?
Alors moi, c'est un projet de recherche sur lequel je travaillais déjà avant le dôme. c'était voir comment est-ce qu'on peut produire sur Mars ce dont on a besoin pour survivre, l'oxygène, la nourriture, etc., à partir de ce qu'on trouve sur place. Et la raison, c'est que envoyer sur Mars toutes les ressources dont on a besoin pour maintenir les astronautes vivants, c'était possible sur le court terme. Maintenant, si on veut passer des années sur Mars, c'est beaucoup trop. Et donc, si on veut faire des colonies autonomes, presque autonomes sur Mars, il va falloir apprendre à utiliser ce qu'il y a sur Mars.
Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer cultiver alors sur la planète rouge ?
Alors voilà, moi, sur quoi je travaillais, c'est cultiver des cyanobactéries. Donc, en gros, c'est des microbes verts qui font de la photosynthèse, comme les plantes, qui pourraient être nourris à partir de choses qu'on trouve sur Mars. Et ensuite, on pourrait les utiliser, ces cyanobactéries, pour nourrir des plantes, qui ensuite pourraient être cultivées pour faire de la nourriture, de l'oxygène et autres.
Mais ça, c'est un scénario que vous avez utilisé réellement sous votre dôme ?
Oui. Alors, on avait de la nourriture en stock, de la nourriture longue conservation, principalement lyophilisée, comme on aurait pour les premières missions, mais en même temps, je développais des systèmes pour les missions d'après, où on utiliserait de plus en plus les ressources qu'on trouve sur Mars.
Et vous avez réussi à nourrir l'équipage avec votre système ?
J'ai réussi à apporter un complément nutritif à l'équipage. On n'avait pas suffisamment d'espace pour faire des systèmes à grande échelle pour ça, mais j'ai réussi à cultiver des plantes en utilisant le résultat de mes recherches directement.
Quelles plantes, par exemple ?
C'est surtout de la laitue.
Ouais.
On a eu aussi des tomates cerises et des radis.
Si jamais une occasion se présente de reparticiper à une simulation de ce genre, vous repartiriez ?
À condition d'avoir des nouveaux objectifs, oui. Je repartirai pas juste pour le plaisir d'être isolé et confiné. Je repartirai si ça peut me donner des nouveaux résultats très importants pour mes recherches.
Vous êtes encore quelques jours à Hawaï. La mission, en fait, n'est pas tout à fait terminée. Hein.
Voilà, là, on a une semaine de débriefing, simplement parce que les chercheurs qui travaillent dessus veulent avoir autant de données que possible pour préparer les futurs voyages sur Mars. Et ensuite, je vais prendre quelques jours de vacances à Hawaï, nager, profiter du soleil, randonner, plonger, avant de retourner à Paris pour 2 semaines.
Voilà, et pour vous remettre de cette année passée sous ce dôme, le français astronaute Thomas Pesquet va s'envoler pour de vrai, lui, dans 2 mois, dans la Station Spatiale Internationale. Est-ce que vous regardez ça avec une certaine envie, Cyprien Verseux ?
Je pense qu'il a énormément de chance, oui. Enfin, de chance, c'est il le mérite, évidemment, mais c'est quelque chose de génial qui lui arrive. Hein.
Si jamais on vous proposait de faire partie des pionniers pour partir sur Mars dans 10 ans, vous diriez oui ?
Oui.
Vous pensez qu'on sera vraiment au point dans 10 ans pour aller sur la planète rouge ?
Ça dépend énormément des ressources qui sont données aux chercheurs et aux ingénieurs pour développer les technologies qui manquent.
Ouais.
Donc je pense que c'est réalisable. Maintenant, il faudra qu'on ait la politique de notre côté, disons.
C'est-à-dire qu'on soit soutenu financièrement aussi et politiquement pour un tel projet.
Exactement. Il faut que les gouvernements décident de fermement d'aller sur Mars dans un futur proche.
Et 10 ans, c'est très très court, en tout cas pour ceux qui en ont le rêve. Merci beaucoup Cyprien Verseux, merci de cette interview. Vous étiez donc depuis Hawaï, à la sortie donc de cette expérience organisée par la NASA, 1 an pour simuler justement une mission martienne. Merci beaucoup à vous, et puis à demain Axel.
À demain Mathieu.
Pour une nouvelle Une de la Science. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une galaxie de matière noire, c'est une découverte intrigante faite par une équipe d'astronomes internationales. Elle se nomme Dragonfly 44, cette galaxie située dans la chevelure de Bérénice est constituée à 99,99% de matière noire, découverte grâce au télescope Gemini North, le plus gros au monde. Elle est située à environ 300 millions d'années-lumière de la Terre et fait la même taille que notre galaxie. Les autres galaxies de matière noire déjà découvertes étaient petites et orbitent autour de la Voie lactée. Nouveau mystère donc pour les astronomes avec la matière noire elle-même. Une équipe de chercheurs pense avoir découvert un gène dont l'expression modulerait la façon dont nous métabolisons la caféine. Après avoir étudié la génétique et les habitudes de consommation de 1200 Italiens, les scientifiques se sont aperçus que le gène baptisé PDSS2 influence fortement notre réaction à la prise de caféine. En effet, l'expression du gène était la plus forte chez les faibles consommateurs de café. À l'inverse, l'expression du gène était la plus faible chez les personnes qui consomment beaucoup de café. Une expérience reproduite et confirmée ensuite sur 1700 personnes aux Pays-Bas. Et puis enfin, les chiens comprennent presque tout ce qu'on leur dit. Une étude publiée cette semaine dans la revue Science montre que le cerveau canin prête attention à la fois aux mots mais également aux intonations. Autrement dit, à ce que nous disons et la façon dont nous le disons. Les scientifiques hongrois à l'origine de cette publication ont soumis les chiens au langage humain tout en leur faisant passer un IRM. Résultat, comme nous, les canidés traitent les mots et leur sens avec leur hémisphère cérébral gauche tandis qu'ils analysent l'intonation avec l'hémisphère droit.